Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, début et itinéraire de Greenpeace, l'une des ONG les plus emblématiques de la planète. Écologistes et pacifistes, déterminés et respectés, ils sont aujourd'hui un peu plus de 10 000 hommes, femmes, partout dans le monde, à incarner le visage de cette association internationale dont les valeurs sont connues de tous. Son engagement idéologique est un combat quotidien avec pour arme, notamment, l'opinion publique. De cette lutte permanente pour la protection de notre environnement, Greenpeace a fait depuis 45 ans son cheval de bataille. Quel que soit le cadre, quel que soit le contexte, l'association écologique est là, à coups d'opérations spectaculaires et médiatiques, pour rappeler au grand public à quel point l'équilibre de notre biosystème est précieux. Campagne anti-nucléaire, protection de la biodiversité et de la vie sous-marine, promotion des énergies renouvelables et défense des populations, Greenpeace est aujourd'hui le fer de lance de bien des combats en matière d'écologie. Mais son histoire est aussi celle d'un pionnier, d'une association participative qui s'est construite sans modèle et qui doit s'adapter aux transformations de son temps. Après le récit, nous donnerons la parole à notre invité, Philippe Lequen, ingénieur et enseignant-chercheur. Il était le directeur de Greenpeace France de 1988 à 1991. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Dans les coulisses de Greenpeace » paru en 1997 chez l'Harmattan. Philippe Lequen sera en duplex à Grenoble dans les studios de France Bleu Isère que nous remercions pour leur accueil. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France, attachée de production Elisa Mar et Lucille Valéry, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice L'Aigle, programmation musicale Muriel Pérez, la technique aujourd'hui Enzo Labori.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Mercredi 2 décembre 2009, Paris, il est midi et demi. Dans le quartier de l'Assemblée nationale règne une intense agitation. Depuis quelques minutes, des gendarmes se déploient dans les rues adjacentes du Palais Bourbon. Dans le ciel, on aperçoit un hélicoptère de la sécurité civile qui survole l'édifice. Rue Aristide-Briand, sur la façade est de l'Assemblée, la circulation est interrompue. Plus loin, on distingue une grande échelle métallique déployée à l'arrière d'un camion rouge. Serait-ce une intervention des pompiers ? Ça y ressemble. Des badauds s'arrêtent sur le trottoir d'en face. Certains d'entre eux font des signes en direction du toit. En haut, on aperçoit des hommes en combinaison rouge, casque vert sur la tête. Ils tiennent de grandes pancartes sur lesquelles on peut lire « Aux actes, monsieur le président ». Qui sont donc ces personnes ? Des militants politiques ? La réponse se trouve en réalité non loin de là, en bas, autour du camion rouge. Là, d'autres individus portent des combinaisons sur lesquelles on peut lire en toutes lettres « Greenpeace ». Il s'agit donc des écologistes. Quelques minutes plus tard, sous l'œil des caméras de télé, les gendarmes interpellent à plus de 25 mètres de haut la dizaine d'activistes de l'association. Fin de la démonstration de force, pense-t-on, à l'Assemblée.
Prochaine séance, cet après-midi à 15h, la séance est levée.
À 15h précisément, dans l'hémicycle, la séance de questions au gouvernement débute. L'ambiance est calme. Un détail pourtant attire l'attention. Au premier étage, les balcons réservés au public sont pleins. En bas, à la tribune, le ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo, s'exprime en prévision du sommet de Copenhague sur le climat qui aura lieu dans 5 jours. Une fois son discours terminé, il descend se rasseoir. Le président de l'Assemblée, Bernard Accoyer, appelle alors le président du groupe Nouveau Centre, Stéphane Demilly, à prendre la parole. Au moment où le député s'installe à son tour à la tribune, plusieurs individus se lèvent de façon synchronisée au balcon du premier étage. Pendant ce temps, devant le micro, concentré sur son propos, Stéphane Demilly n'a rien remarqué au moment où il débute son allocution.
Madame la ministre, monsieur le ministre, monsieur le président, mes chers collègues, le mur de Berlin est tombé il y a 20 ans, le temps d'une génération. À Copenhague, dans moins d'une semaine, c'est un autre mur qu'il nous faudra abattre pour les générations futures. Aux sceptiques et...
La séance est suspendue.
Interruption de séance. Vous entendez, le président vient d'interrompre cette séance car il semble qu'il y ait à nouveau des militants de Greenpeace qui soit parvenu à rentrer dans l'hémicycle, enfin en tout cas sur les balcons du public qui sont au-dessus de l'hémicycle. Il tente de déployer une banderole jaune sur laquelle j'ai cru pouvoir voir Copenhague aux actes, monsieur le président.
Des gendarmes se précipitent vers les balcons pour déloger les activistes. Au même moment, on aperçoit, accroché à un câble, une militante de l'association écologique qui descend en rappel pour atteindre les bancs de l'Assemblée. Elle est ceinturée par un huissier. La scène est spectaculaire. La confusion, elle, totale. Les députés sont debout. Du côté des Verts, on applaudit. Réaction inverse sur les bancs de la majorité, l'UMP, où l'on eut l'initiative. Il faut plus d'un quart d'heure pour que le service d'ordre évacue les militants et que la séance reprenne. Sur les chaînes d'information en continu, on interrompt les programmes pour des flashs en direct sur la situation à l'Assemblée. Le soir, tous les journaux télévisés s'ouvrent avec des images de l'irruption des militants de Greenpeace dans l'hémicycle. Paris gagné pour l'association et ses militants qui entendaient alerter le président Nicolas Sarkozy, comme l'explique Karine Gavan, l'une des militantes qui a participé à cette action.
Cela faisait plusieurs semaines déjà que nous pensions à investir l'Assemblée nationale, le cœur de la démocratie, puisque notre message, qui est porté par Greenpeace, mais qui est aussi porté par les 450 000 signataires de l'ultimatum climatique, un appel adressé au chef de l'État français, n'a pas été entendu. Et ce qu'on demande, c'est du concret, c'est des chiffres pour permettre à la négociation d'avancer, pour permettre de vraiment obtenir un accord qui soit ambitieux, juste, contraignant, mais surtout qui nous permette de rester sous la barre des 2 degrés d'augmentation des températures.
Cette opération menée par Greenpeace s'inscrit dans plus de 3 décennies de militantisme écologique, d'actions menées aux 4 coins du globe, sur les 5 océans de la planète, avec comme leitmotiv protéger l'environnement et dénoncer les dérives humaines. Pourtant, si aujourd'hui tout le monde connaît le nom de Greenpeace et son utilité, toujours prête à défier les multinationales du pétrole et les États, qui connaît réellement son histoire ? Comment est-elle devenue l'une des plus grandes ONG au monde ? Pourquoi a-t-elle été pionnière dans l'activisme écologique ? Et puis, quels ont été les premiers combats et les étapes symboles du développement de Greenpeace ? Septembre 1971. Aux États-Unis, dans les rues de Washington, Boston ou San Francisco, des centaines de groupes pacifistes et contestataires s'opposent à la guerre du Vietnam. Dans ce pays continent, grand comme 17 fois la France, les tensions sont vives. Interpellés par l'émergence d'une culture alternative, le mouvement hippie, les Américains revendiquent leur émancipation. Sur la côte ouest du pays, le long du Pacifique, des groupes de jeunes armés de guitare et roulant en combi Volkswagen explorent de nouveaux choix de vie et de nouvelles voies dans l'habitat, l'éducation, la culture, la spiritualité, la sexualité. Apparaît alors une nouvelle préoccupation qui va devenir une revendication, l'écologie. Mieux utiliser nos ressources naturelles, réduire notre consommation d'énergie, promouvoir des productions renouvelables, voilà pour les grandes idées. Des prétentions qui se retrouvent alors en contradiction avec les pratiques usuelles. Car au milieu des années 70, en pleine guerre froide, les États-Unis et son rival, l'Union soviétique, eux sont dans une toute autre logique. Matérialiste, consumériste et nucléaire, civil comme militaire. D'où leurs essais pour la maîtrise de la bombe atomique qui se multiplie avec le risque toujours plus grand d'une contamination des sols, des territoires et des populations.
L'île d'Amchitka, au large de l'Alaska, dans l'archipel des Aléoutiennes. Depuis des semaines, des hommes forent le sol pour y enfouir à 1800 mètres de profondeur une charge atomique de 5 mégatonnes. L'explosion de cette charge, prévue pour cette nuit, doit servir à la mise au point de l'ogive nucléaire du missile antimissile Spartan. Et c'est pourquoi le président Nixon a autorisé cette expérience. Au dire de la Commission de l'énergie atomique, toutes les précautions ont été prises, et même au-delà. Et pour le prouver, son président assistera à l'explosion avec toute sa famille. Cependant, des vagues de protestations se sont élevées, en Alaska d'abord, puis au Canada et aux États-Unis. 3 prix Nobel, 8 associations pour la défense de l'environnement, 4 pays étrangers, 34 sénateurs américains et même un conseiller du président Nixon ont fait de cette expérience une affaire politique.
Novembre 71. Malgré les interdictions formulées par l'armée américaine, Un petit groupe d'hommes embarque à Vancouver dans une ambiance de kermesse sur un vieux caboteur de 25 mètres de long, le Phyllis McCormack, direction Amchitka. Sur la grande voile blanche, ils écrivent à la peinture verte un nom qui entrera bientôt dans la légende, celui de Greenpeace. Le but du voyage du Phyllis McCormack et de son équipage, c'est de protester et empêcher la tenue des essais nucléaires américains dans l'atmosphère. Car au Canada, frontalier de l'État d'Alaska, la colère gronde depuis plusieurs mois. Le site d'Amchitka est situé à proximité d'une faille sismique. Autrement dit, une explosion nucléaire pourrait entraîner un tremblement de terre et donc un raz-de-marée toxique sur toute la Colombie-Britannique. Sur place, les populations se mobilisent, mais sans résultat. En mer, l'opération menée par ce qui n'est alors que le comité contre le raz-de-marée est un échec cuisant, car le navire doit rebrousser chemin à mi-parcours. Mais à terre, cette aventure tient en haleine une grande partie de l'opinion publique qui la suit avec passion, jour après jour, à la radio. Phénomène qui aboutit à un mouvement de solidarité sans précédent. Des dizaines de milliers de personnes se rassemblent à Vancouver avec des banderoles estampillées Greenpeace pour protester ensemble contre les essais nucléaires. À leur retour, les marins du Phyllis McCormack sont acclamés comme des héros. Parmi eux, un ancien avocat, des anciens cadres de multinationales. On retrouve aussi un ancien garde-côte, Paul Watson, celui qui sera bien des années plus tard le fondateur de Sea Shepherd. À bord, il y a aussi un journaliste du Vancouver Sun, chargé de suivre l'aventure et qui deviendra par la suite l'idéologue du groupe, Bob Hunter. Tous ont pour trait d'union leur engagement pour la protection de la planète, comme le confirme l'un d'eux, Bob McClave.
Je suis un volontaire. Je ne suis pas payé. Je suis juste là pour la nourriture et pour l'engagement émotionnel que défend Greenpeace. Pas seulement pour Nuclear, mais pour un tas d'autres choses. Ce n'est pas juste une cause. Je crois en un avenir meilleur. C'est ça, ou mourir dans notre propre merde. Ce n'est pas très joli à dire, mais c'est la vérité. Et nous devons changer ça.
Quelques mois plus tard, en février 1972, la première puissance militaire mondiale capitule face à la mobilisation d'une partie de l'opinion publique. Les États-Unis d'Amérique arrêtent leurs essais nucléaires à Amchitka. Les écologistes, fer de lance de la contestation, obtiennent ainsi leur premier succès. À la fois incroyable et inespéré, cet épisode marque le point de départ d'un combat qui se poursuit aujourd'hui encore et plus que jamais. Auréolé de son succès, le petit comité contre le raz-de-marée situé à Vancouver se transforme progressivement en fondation. Comme nom, il reprend la devise inscrite à la peinture sur les voiles de son précédent navire, Greenpeace, comprenait en français la paix verte, ou plus précisément la nature en paix. Ils ne sont alors qu'une vingtaine de personnes. Ils n'ont que 9 000 $ en banque, ils ne possèdent pas le moindre équipement, et pourtant, ils ont déjà vécu une arme redoutable, l'opinion. Après l'Alaska, la Fondation Greenpeace continue son combat contre les essais nucléaires. Sa prochaine cible se trouve dans le Pacifique Sud. Il s'agit de l'atoll du Mururoa, Polynésie française. Un lieu où les militaires aux insignes bleu-blanc-rouge procèdent depuis 1966 à des essais nucléaires dans l'atmosphère. À Auckland, en Nouvelle-Zélande, un particulier du nom de David McTaggart leur prête son navire, le Vega. Et c'est à bord de ce petit ketch de 12 mètres, à la coque peinte aux couleurs arc-en-ciel, que pendant 2 ans, les militants écologistes viennent perturber les campagnes d'essais français. Sur le papier, le rapport de force, une fois de plus, est totalement démesuré. D'un côté, David avec sa poignée de militants et son petit bateau. De l'autre, Goliath et son armée de plus de 1 500 hommes, ses 5 destroyers, ses dizaines d'hélicoptères. Une confrontation qui débouche le 14 août 1973 sur un incroyable épisode resté depuis dans les annales. Face à la récurrence des intrusions de Greenpeace en zone interdite, l'armée française envoie ses commandos à l'abordage du navire écologique, le Vega. La scène violente est immortalisée par les clichés d'un photographe de l'association. Des photos qui feront par la suite la une des journaux dans une vingtaine de pays. C'est le premier grand coup médiatique de l'association dont le nom résonne désormais sur les 4 continents. Mais c'est également une prise de conscience pour ses membres qui comprennent que c'est avec ces images chocs et ces vidéos spectaculaires qu'ils arriveront à convaincre l'opinion. Le 24 septembre 1974, la France annonce l'arrêt de ses essais nucléaires dans l'atmosphère. Deuxième voyage, deuxième victoire pour Greenpeace face aux États. Dans la presse, certains journalistes se demandent alors si derrière l'association ne se cacherait pas un lobby politique. Une théorie battue en brèche par Rémi Parmentier, membre de l'association et futur fondateur de Greenpeace France.
Pas d'autre prétention que d'œuvrer pour la sauvegarde de la mer. Nous ne sommes pas un groupe politique, nous sommes simplement un groupe de gens ordinaires déterminés à faire quelque chose de concret et d'efficace pour que l'on cesse de détruire la mer.
Détroit de Bering, novembre 1975. Nous sommes à bord du navire étendard de Greenpeace, le Phyllis McCormack, celui-là même qui sévit lors de la première expédition en Alaska. Si nous nous trouvons là, c'est que depuis la fin de la campagne de Mururoa, Greenpeace abandonne provisoirement la lutte contre les essais nucléaires pour se consacrer à la défense des animaux marins, phoques et baleines en particulier. Car voilà une dizaine d'années que la demande toujours plus forte des consommateurs et la pêche intensive censée lui répondre provoquent des ravages. Les baleines massacrées, c'est assez. Plusieurs rapports scientifiques sonnent l'alarme sur la disparition possible de certaines espèces avant la fin du siècle, tant il est vrai que sur leurs chalutiers, géants soviétiques, japonais et norvégiens, ça donne à des campagnes d'abattage au harpon. Comble de la situation, ils rejettent parfois à la mer les cadavres de baleineaux fraîchement tués, mais pas assez rentables pour être dépecés. Les chiffres font froid dans le dos. Pour la seule année 75, on estime à 40 000 le nombre de baleines tuées à travers le globe. À terre, nombreuses sont les organisations écologiques qui se saisissent du problème. Seulement, aucune d'entre elles n'est capable d'aller en mer pour saisir les images de ces massacres. Seul Greenpeace a les moyens de réaliser de telles opérations au large, grâce notamment à ses zodiacs.
Vous avez vu le baleinier ?
Oui ! Alors, il est resté longtemps à ses côtés. Il n'est pas en train de chasser actuellement. Alors, pour l'instant, on attend. On reste ici parce qu'il est, il va à grande vitesse. Et quand il ralentira, ça voudra dire probablement qu'il commencera à chasser les baleines et on tirera tout droit. Vous intervenez !
Comble de l'ironie, ce sont les militaires français qui ont à leur insu donné à Greenpeace l'idée d'utiliser des zodiacs pour intercepter les chalutiers. Lors de l'arrestation musclée à Mururoa en 1973, les écologistes se sont fait surprendre par la rapidité d'approche des petites embarcations. Eh bien, ils en ont déduit que leur réussite passait aussi par ce genre de matériel et ils l'ont rapidement adopté. Grâce aux zodiacs, Greenpeace filme de très près les campagnes de pêche. Persuadés que la présence de la caméra les protège des tirs de harpons, les zodiacs se livrent aux manœuvres les plus audacieuses et les plus dangereuses pour ralentir les baleiniers et autres bateaux massacreurs pris en flagrant délit d'attentat contre la nature. Des heures durant, les militants filment aussi les images des tirs de harpons et les traînées de sang, scènes brutales et glaçantes. À leur retour à San Francisco, le récit de leurs exploits trouve un écho important auprès du public. Les premiers films sur cette aventure sont diffusés à la télé en Europe et aux États-Unis. Le choc des images provoque une prise de conscience. Alors, les donateurs affluent, les caisses de l'association sont pleines et le soutien populaire incontestable. Les années suivantes, Greenpeace repart en mer et maintient sa pression sur les pêcheurs. Il faut attendre 1981 pour que l'acharnement des écologistes paye.
Les soviétiques ont décidé, vous le savez, de gracier des milliers de baleines. L'URSS va déposer ses harpons au vestiaire, désarmer sa flottille et ne plus chasser le cétacé de par les mers. Pour les organisations de défense des baleines, on a gagné une bataille, mais la guerre n'est pas terminée pour autant. Il reste encore à convaincre les Japonais. C'est ce que pense Rémi Parmentier, l'un des animateurs de Greenpeace.
Cette décision soviétique risque d'avoir des conséquences politiques très importantes au sein de la Commission baleinière internationale. Le rapport de force sera indéniablement bouleversé si c'est confirmé. La chasse baleinière dans le monde prend un très grand coup. Ceci dit, on n'a pas gagné. Attention, on n'a pas gagné et il ne faut pas désarmer. Il y a apparemment l'URSS qui arrête, il reste le Japon, il reste d'autres pays derrière le Japon et il faut continuer à se battre.
L'année suivante, la Commission baleinière internationale décide d'interdire toute chasse commerciale à la baleine. Mais en effet, le Japon, la Norvège et l'Islande refusent de se soumettre à cette résolution. Greenpeace a de nouveau gagné une bataille, mais pas encore la guerre. À la suite de ces campagnes de sauvegarde des animaux marins, les fondateurs historiques de l'association écologique sont peu à peu remplacés par de nouveaux dirigeants. C'est David MacTaggart, l'homme qui avait prêté son bateau lors de la campagne du Mururoa, qui prend contrôle de l'organisation. L'ancien businessman réoriente et concentre les actions sur la lutte anti-nucléaire et en particulier le danger que représente le transport des déchets radioactifs et leur rejet en mer. Ce qui conduit à un moratoire et l'interdiction de ces mêmes rejets, mais oui, en 1983. Malgré des dissensions internes, l'audience de Greenpeace ne cesse de croître. À travers le monde, l'association compte au début des années 80 plusieurs dizaines de milliers de membres. Elle possède désormais une dizaine de bureaux nationaux, dont un en France. En plus des cotisations, les ressources de l'organisation sont augmentées par la vente de t-shirts, badges, autocollants, posters. Son budget atteint plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est précisément grâce à cet argent que l'association rachète un ancien chalutier britannique de 44 mètres de long. Un navire qui devient le fer de lance de sa lutte en mer, son nom, le Rainbow Warrior, le guerrier arc-en-ciel. Face à cette ébauche de puissance et ses revendications croissantes, Greenpeace irrite certains États. Désormais, l'association inquiète en haut lieu, et en particulier à Paris, où les responsables français du ministère de la Défense entendent poursuivre leurs essais nucléaires, souterrains cette fois, dans le Pacifique toujours. Greenpeace contre la France. La nature contre les dérives de l'homme. Une situation qui va aboutir au drame d'Auckland en 1985.
Thank you. le bateau de l'organisation écologiste internationale Greenpeace, le Rainbow Warrior, a coulé hier dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, et c'est à la suite de deux explosions. Un membre de l'équipage est mort. La police néo-zélandaise pense qu'il s'agit d'un sabotage. Le navire s'apprêtait à appareiller pour Mururoa, en Polynésie française, pour protester contre les essais nucléaires de la France dans ce secteur. Le bateau de l'organisation écologiste internationale Greenpeace, le Rainbow Warrior, a coulé hier dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, et c'est à la suite de deux explosions. Un membre de l'équipage est mort. La police néo-zélandaise pense qu'il s'agit d'un sabotage. Le navire s'apprêtait à appareiller pour Mururoa, en Polynésie française, pour protester contre les essais nucléaires de la France dans ce secteur.
Auckland, 11 juillet 1985. La nouvelle de l'attentat contre le Rainbow Warrior se répand comme une traînée de poudre partout dans le monde. En Nouvelle-Zélande, pays où l'association écologique est très populaire, elle provoque une grande émotion. Le coup est dur pour Greenpeace, qui avait investi une grande partie de ses fonds dans la remise à neuf du navire. Qui plus est, l'un de ses militants, un photographe, est mort. Greenpeace, qui se croyait protégé par ses caméras et le soutien de l'opinion publique, devient la cible, non pas d'un assassinat prémédité, mais d'une bavure dramatique qui provoque la mort d'un homme. Écoutez la réaction de cette militante, Louise Trussel, membre de l'équipage du Rainbow Warrior.
Qui pourrait nous en vouloir à ce point-là, dans les mesures où on est maintenant quasiment sûr que ce soit un attentat? Ça, on ne peut pas savoir. Pour l'instant, on n'en sait rien du tout.
On n'a pas eu de menace.
On n'a pas eu de menace, ou bien en France, ou bien dans d'autres pays.
C'est la première fois qu'une telle action est... Et lancé contre
c'est la,
Greenpeace.
C'est la première fois que Greenpeace a eu un mort, même un blessé grave. Et c'est certainement la première fois qu'on a éprouvé ce genre d'expérience.
Petit à petit, l'enquête menée par la police néo-zélandaise met en lumière des faits étonnants. Grâce à un tissu de preuves, on découvre que ce sont des agents français de la DGSE, Direction Générale des Services Extérieurs, autrement dit nos services secrets, qui sont derrière toute cette opération. Le scandale de l'attentat du Rainbow Warrior se transforme alors en une tempête politique qui balaye les plus hautes autorités militaires et politiques, provoquant la démission du ministre de la Défense, Charles Hernu. Si aujourd'hui encore, cet épisode reste retentissant 31 ans après, c'est qu'il a apporté la preuve du pouvoir de Greenpeace sur les pays, leur gouvernement et surtout, oui, surtout, sa capacité à les inquiéter. Pour eux, Greenpeace, c'est le péril vert. En 1987, un tribunal international condamne la France à payer 8 millions d'euros à l'association. Porté par un formidable soutien de l'opinion internationale qui a pris fait et cause pour son combat, Greenpeace repart en croisade à partir de 1990 en Polynésie française. Alors qu'elle est à l'agonie sur le plan financier, cette bataille permet à Greenpeace de revenir sous les feux des projecteurs médiatiques. À bord du Rainbow Warrior 2, ces militants engagent une lutte intensive, comme ici, au large de la zone interdite.
7h38 sur France Inter, la question du jour. Stéphane Paoli, bonjour.
Bonjour. Rainbow Warrior 2 fait route vers l'atoll de Mururoa, site des essais nucléaires français qu'ils doivent reprendre en septembre prochain. En ligne ce matin, grâce à une liaison satellite, Jean-Luc Thierry, qui est le responsable français de la mission à bord de Rainbow Warrior 2. Bonjour.
Bonjour.
Avez-vous pu identifier ce navire qui vous suit depuis maintenant un petit peu plus de 24 heures?
Malheureusement non, on en est encore à le suivre sur le radar. On suit très nettement sa course, il ralentit quand on ralentit et il n'y a aucun doute sur le fait qu'il nous suive. On peut distinguer les superstructures de loin, mais on ne peut pas vraiment l'identifier. Il a refusé tout contact radio. On a essayé de lui transmettre un message directement en mettant des zodiacs à l'eau et en allant à sa rencontre, mais à ce moment-là, il s'est éloigné.
Avez-vous le sentiment, Jean-Luc Thierry, que la précédente affaire il y a 10 ans du Rainbow Warrior vous protège maintenant?
Pour partie, certainement, parce que je crois que le gouvernement français a payé très cher cette manière expéditive de résoudre la question de l'opposition aux essais. D'un autre côté, il y a aussi une certaine tension dans l'atmosphère. Bon, les militaires se préparent à notre arrivée et je crois qu'il faut tout de même être prudent et ne pas faire n'importe quoi.
Un an plus tard, en 1996, ses efforts sont couronnés de succès, une fois de plus. Jacques Chirac annonce en effet l'arrêt de son programme d'essai nucléaire dans le Pacifique. Après plus de 20 ans de combats, de douleurs et de protestations, les écologistes obtiennent gain de cause. En réalité, nombreux sont ceux qui considèrent que c'est pour des raisons de politique intérieure, peu liées aux revendications écologistes, que la France abandonne ses tirs souterrains. Il n'empêche, cette décision va parfaitement dans le sens de Greenpeace. Au même moment, l'association écologique est en plein bras de fer dans les eaux de la mer d'Écosse. Il se trouve que le groupe pétrolier Shell se prépare à faire couler une vieille plateforme pétrolière. Greenpeace dénonce, chiffre à l'appui, un acte de pollution considérable de près de 5500 tonnes de résidus pétroliers. Les écologistes crient au scandale et accusent le groupe pétrolier de choisir la solution la moins onéreuse pour elle, pas pour la nature. La presse relaie l'information et l'opinion se mobilise. L'affaire de la plateforme Brent Spar, c'est son nom, devient un enjeu politique au Royaume-Uni, mais aussi aux Pays-Bas et en Allemagne, où Greenpeace est très puissant. Dans un premier temps, les écologistes tentent d'empêcher l'opération de sabordage de la plateforme en élitroyant plusieurs de leurs hommes au sommet de l'installation. Spectaculaire, mais inefficace. Greenpeace met alors en place une autre stratégie qui, elle, sera redoutable, le boycott. Présent en Allemagne, Olivier Schned, le correspondant de Radio France, en explique le principe.
Deux militants de Greenpeace devant une station-service Shell, encourageant l'automobiliste à aller jusqu'à la prochaine station. La scène est courante en Allemagne, où le boycott prend des proportions considérables et inquiétantes pour les 1700 franchisés du pays. Jusqu'à 50% de chiffre d'affaires en moins, les pertes du groupe atteindraient 75 millions de francs par jour. Il faut dire que l'opération lancée par l'organisation écologiste a été largement relayée par les partis politiques de gauche et de droite. Le ministre de l'économie a même hier appelé au boycott. L'église protestante, 30 millions de membres, a aussi pris position contre la compagnie pétrolière. Shell continue malgré tout à expliquer qu'une destruction en mer est plus sûre qu'un démantèlement à terre, mais à quelques heures de l'arrivée de la plateforme, au point prévu de sabordage, sa position devient difficile à tenir malgré le soutien du gouvernement britannique. D'autant que deux passagers clandestins, militants de Greenpeace, sont à bord de Brent Spar. Ils y ont été déposés par hélicoptère. Alors, avant éventuellement de couler la plateforme, il faudra les en déloger.
L'affaire de la plateforme Brent Spar illustre la puissance du boycott, arme capable de faire plier les plus grands industriels qui se retrouvent soumis à la pression du marché. Dans le cas de Shell, face à une situation devenue intenable, le géant anglo-néerlandais décide d'abandonner son projet de sabordage. Alors Greenpeace triomphe, David est plus fort que Goliath, encore une fois. Pourtant, quelques mois plus tard, prise la main dans le sac, l'association écologique reconnaît avoir surestimé ses chiffres concernant la pollution des rivages. Ces excuses ne font que quelques lignes dans la presse quand les déboires de Shell, eux, alimentent des pages entières. Au tournant des années 2000, Greenpeace fait face à la révolution numérique. Les revendications sur Internet sont mondialisées, participatives. Les réseaux sociaux proposent leurs propres pétitions en ligne et leurs propres groupes de pression. Les images de protestations affluent du monde entier. Toujours en perpétuelle évolution, Greenpeace multiplie ses terrains de bataille. Elle soutient à la fois les énergies renouvelables et promeut un modèle de développement durable. Elle défend les forêts amazoniennes. Elle lutte contre l'utilisation de substances nocives dans les appareils électroniques. Elle s'engage contre certaines guerres et certains conflits. Elle dénonce le manque de sécurité des centrales nucléaires et le grave problème des déchets. Championne à la fois du savoir-faire et du faire-savoir, on n'a pas fini d'entendre parler de Greenpeace tant que la nature ne sera pas en paix.
Yeah.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'épopée de Greenpeace, notre invité Philippe Lequen, bonjour.
Bonjour.
Ingénieur, enseignant-chercheur, vous avez été le directeur de Greenpeace France de 1988 à 1991 et vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Dans les coulisses de Greenpeace » paru en 1997 chez l'Harmattan. Voilà, alors vous avez, je rappelle que vous êtes en duplex de Grenoble. On l'a vu, Greenpeace a grandi, s'est professionnalisé. Combien de personnes aujourd'hui ça représente en termes de membres et combien de bureaux dans le monde?
Alors les membres, je pense qu'il y a un tassement depuis l'affaire du Rainbow Warrior, où il y a eu une explosion. Greenpeace est passé de quelques centaines de milliers d'adhérents à 4 millions. Aujourd'hui, il semble que ce soit plutôt autour de 2 millions, mais c'est quand même beaucoup.
Ah,
disons
oui.
Que ce ne sont pas des membres comme les membres d'une association, mais ce sont des donateurs. Donc Greenpeace revendique parler au nom de ces quelques millions de personnes qui le soutiennent financièrement.
Quelle proportion représente le financement de Greenpeace par les donateurs? Il y a les produits dérivés aussi?
Oui, les produits dérivés, c'est très peu. Je pense qu'à 80 ou 90% des ressources de l'association viennent des donateurs. C'est leur force hein, de pouvoir ne dépendre d'aucun don d'industriel, de gouvernement, de subvention. Greenpeace ne demande jamais aucune subvention à aucun gouvernement pour quoi que ce soit. Hein.
D'où son indépendance. C'est le gage de son indépendance,
oui.
C'est ça?
Oui, bon. Tout à fait. Oui.
À votre époque, au début des années 90, Greenpeace était déjà une grosse machine, une association multinationale, oui, on peut le dire d'ailleurs, de l'écologie. Est-ce que l'esprit, la dimension associative, celle des pionniers, est-ce que tout cela est encore là quand on s'est professionnalisé à un tel point et quand on est finalement assez puissant et planétaire? Comment on sauvegarde l'esprit pionnier?
Oui, quand je suis arrivé en 1988, les critiques qui étaient faites à Greenpeace, à l'époque, c'était de dire que c'était justement une multinationale de l'écologie, dirigée depuis les Pays-Bas par une entité internationale qui avait droit de regard sur tous les bureaux nationaux et qui avait complètement oublié le caractère un peu militant de ses origines.
D'où la question, alors?
Oui. Alors aujourd'hui, par exemple en France, il y a des groupes locaux qui essaient de retrouver un contact avec le terrain. Ça reste quand même une multinationale. On peut pas se cacher derrière ce fait-là, quoi. C'est une organisation. Pour avoir le droit d'utiliser le nom Greenpeace, vous devez passer sous les fourches codines de Greenpeace International.
Quand vous étiez à la tête de Greenpeace, est-ce que vous manquiez d'indépendance en France pour mener des actions parce qu'il y avait un cahier des charges global ou est-ce que vous arriviez quand même à avoir une vraie autonomie?
L'autonomie, il fallait se battre pour l'obtenir. Parce que quand on est arrivé, l'ancienne équipe avait été liquidée. Greenpeace bénéficiait d'une très mauvaise image en France. Entre 1985 et 88, il n'y avait plus de représentation de Greenpeace en France. Quand on est arrivé, bon, une toute petite équipe, on était 3-4 personnes, on a senti ces tensions à la fois au niveau de la France, puis aussi au niveau de l'international, parce que vous avez une quinzaine de Français dans une organisation où il y a des centaines d'Américains, d'Anglais, de Néerlandais, d'Australiens, Néo-Zélandais. Quand ils savent que vous êtes Français, leur première expression, c'est « Ah, French, shit ».
Mais pourquoi?
Parce qu'on a une sorte de péché originel d'avoir été... les compatriotes de ceux qui ont coulé le Rainbow Warrior.
Ah oui, bien sûr.
Il y avait cette vieille histoire qui...
Qui laisse des traces.
Qui n'était pas si vieille que ça, qui laissait des traces, quoi.
Bien sûr.
Et puis...
La mauvaise image, c'était ça. Donc, quand vous dites mauvaise image, c'était donc ça, hein, qu'il fallait comprendre.
Oui, c'était ça, évidemment. C'était très mauvaise image à cause de ça, oui.
On dit aussi que, alors évidemment, Greenpeace est une association écologique, donc estampillée de la couleur symbole de ce combat, le vert. Mais est-ce que Greenpeace, c'est pas non plus vert-rouge?
Oui, ça a été aussi une dénonciation de quelques médias à l'époque en disant que si on coupait le fruit, c'est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. On entend encore ça un peu aujourd'hui. C'est pas du tout le cas. Greenpeace est peu politisé en interne. Bon, même si beaucoup de dirigeants de Greenpeace en France et dans d'autres pays d'Europe sont ensuite partis chez les Verts, ou l'équivalent, hein, chez les Grünen en Allemagne, Disons qu'il n'y a pas de référence ni de combat politique au sein de Greenpeace.
Alors, Greenpeace s'attaque à des pays démocratiques et à leurs mauvaises habitudes anti-écologiques, industrielles, nucléaires. Greenpeace s'attaque rarement à des dictatures. Alors évidemment, c'est bien de s'attaquer aux dérives de pays démocratiques. Enfin, il y a des combats qui s'appellent aussi les combats des droits de l'homme. Celui-là est important aussi.
Oui, oui. Vous avez bien montré dans votre reportage, en fait, les méthodes d'action de Greenpeace, quoi. C'est-à-dire, les militants, c'est sûr qu'ils s'exposent, ils prennent des risques, et ils doivent jouer un jeu où ils savent que, grâce aux médias, ils vont être protégés. Bon, on a vu que des militants qui se sont opposés à des intérêts russes ont été mis en prison ces dernières années-là. Donc, bon, il y a toujours un peu une limite d'aller dans des pays où, finalement, les gens ne jouent pas cette règle du jeu des médias et de la démocratie par le biais des médias.
Bah, c'est un peu les encourager à continuer que de ne pas y aller, non ?
C'est sûr. Oui. On peut dire que oui, là, oui.
On va écouter un militant de l'association qui parle de la dimension, justement, du combat de Greenpeace. Et là, nous sommes en 1995. On écoute ensemble ce militant.
D'accord, nous sommes non-violents, mais moi je dis qu'il s'agit d'une guerre. C'est une guerre pour la survie de la planète, c'est une guerre pour la survie des espèces vivantes. La guerre n'est pas jolie, la guerre ça n'est pas gentil, mais ça ne change rien à notre motivation. Il faut que nous imposions des changements radicaux à la façon dont les gens vivent sur cette planète, sinon nos petits-enfants et leurs enfants ne survivront pas.
Qu'en pensez-vous ?
Ben c'est une tendance d'une partie de Greenpeace. Hein, je pense qu'il vaut mieux quand on entend ça, il vaut mieux qu'il n'ait pas le pouvoir, parce qu'on ne sait pas bien jusqu'où ce type de déclaration peut conduire, quoi. Alors évidemment, il y a souvent le combat du bien et du mal. Si donc Greenpeace est du côté du bien, si vous nous soutenez, vous êtes du bon côté. Voilà, il y a des limites à tout ça, quoi. C'est beaucoup plus complexe que simplement oui, non, blanc, noir, gentil, méchant. Hein.
La spécialité de Greenpeace, et finalement sa grande réussite, c'est l'interpellation. Hein. C'est l'interpellation de l'opinion publique, et ça passe forcément, dès lors qu'on s'adresse à l'opinion publique, on passe par les médias. Alors on passe aussi par Internet maintenant, on verra à quelle évolution ça correspond par rapport à vous. Mais dans une manière plus traditionnelle, les médias, c'est donc bien ça, la philosophie, le mode d'action de Greenpeace, c'est toucher l'opinion par les médias, à travers des actions les plus spectaculaires qui soient.
Ah oui, ça, je pense que vous l'avez bien montré dans votre reportage. Là, c'est bien, en 1971, c'est bien parce qu'il y avait une équipe de télévision à bord qu'il y a eu cette espèce d'engouement général, comme si c'était une aventure avec des gens qui mettaient leur vie en péril et qui racontaient une histoire. Et dans ce qu'on apprend quand on débarque dans Greenpeace comme moi en 1988, je ne connaissais rien, on commence par faire un stage pour nous apprendre à comment fonctionnent les médias. Et on nous apprend notamment qu'il vaut beaucoup mieux essayer d'obtenir 10 secondes dans un grand journal télévisé à 20h le soir que 10 lignes dans un grand quotidien ou qu'un article de 10 pages dans un magazine à diffusion beaucoup plus restreinte. Oui, donc cette hiérarchie-là, elle est vraiment fondamentale dans Greenpeace. C'est l'objectif de Greenpeace, c'est le journal de 20 heures, quoi. Vous voyez ?
Oui, c'est le mérite d'être clair et d'être franc, effectivement. Oui. Donc c'est un levier, quoi. Pour vous, c'est un levier, c'est ça ?
Oui, c'est une véritable stratégie, quoi. Mmh. C'est-à-dire, ils veulent toucher un maximum de public, et ils savent bien que pour toucher ce public, il faut être présent sur les grands médias, la télévision, et le journal de 20 heures en particulier, quoi.
Bon.
C'est vraiment, tout est focalisé là-dessus. Ce que vous l'avez bien montré aussi avec ce qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale, c'était une réussite pour eux, puisque voilà, l'objectif était atteint, on en a parlé, on en parle en direct sur les chaînes d'information, et puis on répercute ça sur le journal du soir.
Bon, alors comme on l'a raconté aussi, tout cela a débuté au Canada, du côté de Vancouver, dans les années 70 et en 1976, une certaine Véronique Sanson nous chantait précisément Vancouver.
Ça, je l'ai bien connu. Je mène ma vie comme un radeau perdu. Les gens de la nuit sont toujours là quand il faut. Ils vous accueillent avec des rires et des bravos.
Philippe Lequen, je rappelle que nous parlons de Greenpeace aujourd'hui, de l'épopée Greenpeace de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur le Greenpeace d'aujourd'hui ?
Ah, alors, c'est assez compliqué, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, là, depuis 45 ans, la prise de conscience a eu lieu. Greenpeace y a beaucoup contribué, par ses messages d'alerte, par les informations qu'elle portait à la connaissance du public. Bon, je pense qu'aujourd'hui, tous les médias, tout le monde est à peu près au courant, l'alerte est donnée. Est-ce qu'il faut continuer sur cette voie-là ? C'est un peu ma question, quoi. Des millions de gens ont donné de l'argent à Greenpeace. Est-ce qu'ils n'attendent pas autre chose que simplement des messages d'alerte toujours plus inquiétants, toujours plus pessimistes, évidemment, puisqu'on ne voit pas que la situation s'améliore ? C'est une réelle question pour Greenpeace aujourd'hui. Quoi.
Mais c'est son rôle. Greenpeace devient aussi lanceur d'alerte, alors très, très professionnel, oui. Très organisé. Oui. C'est un rôle intéressant, non ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ?
Non, je ne dis pas que le rôle n'est pas intéressant, mais avec les moyens que Greenpeace a aujourd'hui, elle pourrait ne plus... Bon, l'alerte, elle est faite par Internet, elle est faite par des journalistes, elle est faite par le GIEC, elle est faite par d'autres organisations sur des tas de sujets, quoi. Peut-être que les immenses ressources dont Greenpeace bénéficie pourraient être mises au service d'une cause qui proposerait des solutions. C'est un sujet sur lequel Greenpeace a toujours été réticent, parce qu'il ne fallait pas proposer des solutions, mais au contraire, alerter l'opinion publique. Je pense que cette question d'alerte, il me semble, a été faite. Quoi.
En même temps,
regardez quelqu'un comme Pierre Rabhi. À sa toute petite échelle... Sans avoir le millième des moyens dont dispose Greenpeace, ils proposent des solutions concrètes. Alors évidemment, on peut les trouver dérisoires. Mais voilà quelqu'un qui est passé un peu de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire, il suffit plus d'alerter. Il me semble que maintenant, il faut agir. Et agir, c'est pas avec des banderoles, c'est pas avec des messages comme ça, planétaires. Il faut aller dans le concret des choses, quoi. C'est complet, j'ai pas de solution. Hein.
Mais vous savez, hier j'ai interviewé par téléphone Jean-François Julliard, qui est le directeur actuel, de directeur général de Greenpeace France, hein, pour préparer cette interview. Et il me donnait des précisions intéressantes. C'est-à-dire que Greenpeace est devenu aussi peut-être le premier des contre-experts. Il a sa propre unité de scientifiques adossée à un laboratoire anglais, donc les données sont sérieuses. Greenpeace effectue des mesures, des prélèvements sur le terrain, notamment pour ce qui les pesticides, des contre-expertises. Greenpeace est auditionné par le GIEC pour la lutte contre le réchauffement climatique comme référent. Donc on n'est pas que dans les alertes lancées apparemment. Chez Greenpeace aujourd'hui, on est un opérateur référent des combats pour lesquels, bien sûr, on s'est engagé.
Oui, bah sa notoriété, son histoire,
son savoir-faire aussi.
Championne du savoir-faire et du faire savoir, comme vous dites, quoi.
C'est quand il y a que du faire savoir que ça colle pas.
Oui, c'est bon. Juste. Ouais. Mais le savoir-faire, il est quand même orienté sur les messages d'alerte, sur des messages un peu simplistes, sur arrêtez tout. Vous verrez peu de documents, enfin moi j'en connais pas, où Greenpeace fait une série de propositions concrètes, par exemple sur la pollution de l'eau, sur une transition énergétique. Vous avez des associations qui travaillent très bien là-dessus, par exemple l'association Négawatt a fait des propositions concrètes sur la transition énergétique, comment on pourrait passer à 100% de renouvelables d'ici 2050. Bon, Greenpeace n'est pas du tout sur ce terrain-là, quoi.
Alors, l'avenir de la lutte contre le réchauffement climatique et les énergies renouvelables, ce sont les priorités de Greenpeace aujourd'hui, en tout cas. La lutte contre le réchauffement climatique, elle est passée par la COP21, qui vous a ouvert, vous, de grands espoirs. Vous faites partie de ceux qui disent oui, on a vraiment avancé, ou qui restent sceptiques.
Oui, on a avancé sur les paroles, sur la mobilisation des États. On a avancé sur une espèce de conscience planétaire un peu plus élargie qu'avant. Bon, vous voyez, mais au 1er janvier, on retombait exactement dans les mêmes travers qu'auparavant, c'est-à-dire, quelle transition énergétique, quel avenir pour les renouvelables en France, par exemple, comment et sur quel calendrier allons-nous sortir du nucléaire ? Voilà, toutes ces questions-là sont pas réglées, quoi. Il faudra peut-être encore une prochaine COP et puis peut-être encore quelques réunions comme ça avant que il y ait vraiment des engagements concrets et peut-être une évolution de nos modes de vie vers une société plus sobre, plus économe en énergie. Il ne s'agit pas de croissance, il y a des choses qui peuvent très bien décroître. Notre consommation d'énergie peut décroître et notre qualité de vie rester la même. Donc c'est pas en termes de décroissance qu'il faut voir les choses. Mais bon, ces sujets-là sont très peu abordés.
Très peu abordés par qui ?
Par les politiques. Oui.
Ils sont abordés quand même. Les préoccupations écologiques sont devenues quand même l'un des pivots de la réflexion politique quand même. Même si on n'a pas trouvé les solutions, au moins c'est un vrai débat. On en parle tout le temps.
Ah, c'est un vrai débat aujourd'hui. C'est un vrai débat et qui traverse largement les partis politiques aussi. Hein. Oui.
Très bien. Merci infiniment.
Je vous en prie, merci
d'avoir répondu à nos questions.
Émission.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, Greenpeace, c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.